Radio Kapi. Le journal à la présentation. Patience Ngalula Mbombo.
D'abord les titres. Les forces de défense et de sécurité en alerte pour contrer les banditismes à l'approche des festivités de fin d'année à Goma. Le commissaire supérieur principal l'a dit lundi lors de la présentation d'une trentaine de malfrats interpellés au courant de la semaine passée dans le cadre de l'opération Safi Chamoudjou à Goma. Le président de la République est arrivé à Kalemie dans le Tanganyika depuis hier mardi après-midi. Félix Tshisekedi va présider la 11e conférence des gouverneurs des provinces qui s'ouvre aujourd'hui sur place et le vendredi, il animera la 23e réunion du Conseil de ministres. Notre invitée est Marie-Josée Ifoku, candidate malheureuse à la présidentielle de 2018 et 2023. Elle donne son point de vue sur la révision ou les changements de la Constitution. Pour elle, le pays n'a pas de problème de texte, mais souffre d'une crise de leadership et de gouvernance héritée depuis plus de 60 ans d'indépendance. Bonjour. Au Nord Kivu, les forces de défense et de sécurité sont en alerte pour contrer les banditismes à l'approche des festivités de fin d'année dans la ville de Goma. C'est le maire de Goma qui l'a dit. Le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin s'est ainsi exprimé lundi lors de la présentation d'une trentaine de personnes interpellées au courant de la semaine passée pour divers actes infractionnels dans le cadre de l'opération Safi Chamoudjou à Goma na Kando, Chris Mukand.
Dans sa présentation, le sous-lieutenant Sadiki Olivier des services de renseignement de la 34e région militaire a isolé un groupe de trois personnes, dont un sujet rwandais désigné comme combattant du M23. Elles auraient été surprises en pleine opération d'espionnage de points stratégiques de la ville de Goma, un espionnage doublé d'un trafic de cannabis entre le territoire de Massissi et la ville de Goma, ce qui pousse l'autorité urbaine à appeler la population à plus de vigilance, à dénoncer les cas de banditisme et toute tentative de déstabilisation de la ville par des actes terroristes. Si vous observez bien, la ville de Goma est encerclée par l'ennemi. Les deux fronts, Axe Sake et Kibumba, c'est une zone de repli de criminels de tous bords. Martel, le maire de Goma, souligne l'importance pour chaque habitant de son entité à s'investir dans des efforts visant à lutter contre l'insécurité. Toutefois, il rassure que le comité urbain de sécurité met les bouchées doubles pour asphyxier tous les bandits armés qui planifieraient de torpiller la quiétude de la population de Goma lors des fêtes. Pour sa part, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Goma, le magistrat Pascal Paluku Kitambala, tous les criminels appréhendés seront mis hors d'état de nuire. Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu où Liberata Rubumba, une femme leader du territoire de Rutshuru, déplore l'occupation du groupement de Binza par le M23 et ses alliés. Binza, c'est le dernier groupement de la chefferie de Bouicha dans les Rutshuru qui n'était pas occupé par les rebelles. Administratrice adjointe honoraire de ces territoires, Liberata déplore les conditions de vie des habitants de Binza qui viennent aussi de fuir leur village. Elle demande au gouvernement de faire tout son possible pour récupérer les zones occupées par les rebelles. Madame Liberata Rubumba est au micro de Rosalie Zawadi.
Il y a de nouveaux déplacés qui arrivent à grand nombre en provenance de Binza. Binza, c'est le seul groupement qui restait entre les mains du gouvernement pour le territoire de Rutshuru. Et aujourd'hui, Binza est aussi entre les mains du M23. Et toute la population de Binza est ici à Goma, d'autres sont partis en Ouganda. Nous déplorons cette situation. Nous devenons de plus en plus malheureuses. Et c'est toujours la femme qui est la première victime. Ainsi donc, que le gouvernement fasse tout pour que nous puissions rentrer chez nous et qu'il fasse tout pour récupérer tous les milliers qui sont déjà pris par les M23. À Binza, il y a les villages qui ont été pris récemment. Il y a Kiseguro, il y a le village de Katiguru, il y a le village de Kisharo, il y a le village de Buganza, il y a le village de Nyamirima et Ishasha aussi. Voire même Nyakakoma aussi, c'est fait partie du groupement de Binza. Tous ces villages-là sont entre les mains du M23.
Les sept groupements de la chefferie de Bouicha, à savoir Rugari, Kisigari, Bueza, Djomba, Bukoma, Binza et Busanza, sont ainsi occupés par les rebelles. C'est aussi le cas de l'autre chefferie de ces territoires, celle de Buito, avec ses sept groupements. 3 morts, c'est le bilan d'un accident de circulation routier le lundi vers 16h à Kilimanyoka. C'est sur l'axe Kibumba, en territoire de Nyiragongo. D'après la société civile, les victimes sont les conducteurs des motos et les deux clients qu'ils transportaient. La Jeep FRDC roulant à vive allure a percuté la moto qui roulait en sens inverse. Les 3 personnes sont mortes sur les champs, affirme la même source. Les corps des victimes transportés par le militaire sont gardés à la morgue. Nord Kivu toujours, 56 acteurs de la société civile, dont 8 femmes en provenance des villes de Beni et de Butembo, mais aussi des territoires de Lubero et de Beni, participent depuis ce mardi à un atelier de 2 jours sur le renforcement de la collaboration avec la MONUSCO. Organisé par la section des affaires civiles de la mission, cet atelier a pour objectif de rappeler les rôles essentiels des acteurs de la société civile et de formuler des recommandations pour mener des actions concrètes, notamment pour la protection des civils. Guylaine Kassassia nous fait le point.
À l'ouverture de l'atelier, Abdourahman Ganda, le chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni, a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre la société civile et la MONUSCO pour assurer la protection des civils de la région de Beni, Butembo et Lubero.
2025 doit être le changement de travail de la MONUSCO et de la société civile. On ne doit pas être jugé sur le nombre d'ateliers ou de séminaires que nous allons faire. Nous allons être jugés sur notre capacité à lutter contre la criminalité. Tous les premiers jeudis de chaque mois, on va s'asseoir pour faire le bilan. La MONUSCO, vous avez fait ceci, c'est pas bon, changez. Vous avez fait cela, c'est bon, continue. Une société civile, elle n'est pas que critique, mais elle doit faire des propositions constructives.
De son côté, Tafuten Mouindo, le président de la société civile du territoire de Lubero, a appelé à une action accrue de la MONUSCO pour restaurer la confiance de la population.
Comme la persistance de l'insécurité a été ressentie dans la zone, la population a développé un sentiment de méfiance, non seulement de la part de la MONUSCO, mais aussi de toutes les autorités. On suppose que s'il y a un changement de stratégie, on attend que peut-être cela puisse encore ramener une confiance.
La directrice de la section des affaires civiles de la MONUSCO en mission à Beni a réaffirmé l'engagement de la mission pour la protection des civils. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
En Ituri, le gouvernement provincial a présenté ce mardi à la presse un groupe de 18 présumés bandits, 3 enfants du site des déplacés des Plaines Savo dans les territoires de Djougou. D'après les services de sécurité, ces personnes ont été recrutées par un certain Gabou, membre de la milice Zaïre, allié du M23. C'était pendant qu'il tentait de traverser la frontière de Païda en Ouganda pour atteindre le centre de formation de Tchanzu au Nord Kivu. Le gouverneur des provinces condamne le recrutement des personnes vulnérables par certains fils et filles de l'Ituri, membres de ces mouvements rebelles. Le général Johnny Luboya Kachama le dit au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Les militaires ne sont pas formés pour aimer. Les militaires sont formés pour travailler. C'est-à-dire un militaire, quand il dit il travaille, c'est sans état d'âme. Ces jeunes gens que vous voyez là-bas, sacrifiés, qui viennent des familles pauvres, déplacés, des victimes, mais on veut les victimiser une deuxième fois. On est allé les recruter parce qu'ils sont vulnérables. C'est un crime contre l'humanité. Nous demandons que la CPI s'occupe d'eux parce qu'ils vont dans les sites des déplacés. Ils veulent être des grands en utilisant des petits vulnérables. Je demande à toutes les communautés de ne pas accepter cela. Peuple itourien, je fais appel à vous. L'heure est grave, qu'on ne vous trompe pas. L'heure est grave. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer ces bandits, ces criminels qui veulent, n'est-ce pas, détruire ce que nous avons construit ensemble.
Dans les Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi vit au rythme de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles faites à la femme et à la jeune fille. Le coup d'envoi a été lancé le lundi dans la capitale cuprifère. Constat de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et point focal de la synergie de lutte contre les violences basées sur les genres. Très souvent, les victimes de ces violences ne dénoncent ni ces actes ignominieux, ni leurs bourreaux, ce qui les rend encore plus vulnérables, dit-elle. Liliane Komba est au micro de Jean Gandou.
Lorsque les bandits entrent dans les maisons, abusent aussi des femmes et se permettent même de photographier pour envoyer dans les réseaux. Il y a aussi les violences qui nous proviennent des universités et des écoles. Nous pensons vulgariser les lois et les instruments juridiques qui protègent la femme et la jeune fille. L'ignorance de cela empêche la femme de poursuivre les bourreaux. Elle va garder son silence, mais elle ne sera pas non plus épanouie. Elle va s'encloisonner à elle-même. Et c'est ce qui est fatal. Alors, elle demeure dans ces violences parce qu'elle n'a pas de moyens de survie. Les survies proviennent des fois de son bourreau, comme pour les cas de violences conjugales. Nous allons aussi faire la clinique juridique avec les collectifs des femmes juristes et avocats, les organisations féminines de la société civile, les députés en partenariat avec le ministère des gens, familles et enfants pour descendre dans la population et déceler les maux qui rongent par rapport aux violences et y apporter des solutions.
Comme annoncé sur nos antennes, le président de la République est arrivé à Kalemie dans les Tanganyika depuis hier mardi après-midi. Il a été accueilli par les gouverneurs et les ministres qui, d'après sa porte-parole, sont déjà sur place. Pour rappel, le chef de l'État va présider la 11e conférence des gouverneurs des provinces aujourd'hui et le vendredi, il animera la 23e réunion du Conseil de ministres. Sachez cependant qu'à peine arrivé, Félix Tshisekedi s'est adressé à la population venue nombreuse, écouter à la place Mayende Leo. Il est notamment revenu sur la question relative au projet de la révision constitutionnelle. Tina Salama, porte-parole du président de la République, explique le pourquoi de la tenue du Conseil de ministres en province ainsi que l'essence que Félix Tshisekedi accorde à la révision constitutionnelle. Elle est jointe depuis Kalemie par Pele Kipela Mondo.
Le but pour le chef de l'État, c'est de ramener, on va dire, les institutions de la République en province. Aujourd'hui, c'est Kalemie. Hier, vous vous en souvenez, nous étions à Kisangani et demain, ce sera une autre province. La démarche étant en tout cas d'étendre l'autorité de l'État et de faire en sorte que toutes les provinces se sentent concernées. Alors ce mardi soir, le président de la République a tenu un grand meeting à la place Mayende Leo devant une foule immense qui est venue l'attendre malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Alors, il a rappelé ses engagements de campagne et a tenu à préciser que pour ce qui concerne le projet de la révision de la Constitution, la balle était désormais entre les mains de la population parce que lui, le président de la République, ne vise que l'intérêt du peuple et pas le sien.
Encore un drame à Kinshasa. Une fillette de 12 ans est morte lundi à Kinshasa, tuée par un chien. Les faits ont eu lieu vers 11h locales au quartier Mpassa 2, dans la commune de Lancélé, dans la parcelle où sa mère travaille comme personnel des maisons. Le corps de la fillette est gardé à la morgue de l'hôpital de Saint-Pépé à Kinkolé. Le chien a été abattu. Son propriétaire et maître de la maison, lui, est introuvable. Ceci relance la problématique de la gestion de certaines races de chiens dans la ville. Moïse Lindombe et Babel Pongo Massimango, reportage.
Ça, c'est ce qu'on peut entendre de la vidéo qui circule. On y voit un chien en train de dévorer sa victime dans son couloir. Des témoins filment la scène, mais n'osent pas s'approcher. Le bourgmestre de Lancélé, Franck Mbonsolaminso, explique les faits.
La fille de la bonne était venue voir sa maman parce qu'on l'avait chassée de l'école et elle voulait aller se soulager. En passant derrière, le chien a attaqué. Il a dévoré la fille. Pour récupérer le corps, il fallait tuer les chiens par balle.
Le bourgmestre parle aussi des mesures prises.
Que tout le monde qui est en train d'élever ce genre de chien, il doit se faire identifier au service des vétérinaires ici dans notre commune de Lancélé. Le gouverneur avait déjà interdit d'élever ce genre de chien. On est en train de chercher comment récupérer les responsables de ces chiens.
Ceci n'est pas le premier cas de genre à Kinshasa. En février 2023, un chien de race avait également tué un enfant de 2 ans au quartier 4 de la commune de Njili. Un autre s'était attaqué à un enfant lui rognant l'arrière du crâne dans la commune de Ngaliema. Heureusement, cette fois-là, l'enfant a pu être sauvé. Ces cas interpellent d'autres Kinois qui voient des voisins promener leurs chiens dans les rues. L'un d'eux témoigne.
Presque chaque jour, un voisin relâche aux alentours de 22h 3, 4 à 5 chiens. Ces chiens circulent les avenues, ça fait tellement peur au quartier.
Impuissants, ces Kinois demandent aux autorités communales et provinciales de les sécuriser.
La société civile du groupement des Basongora dans le territoire des Beni en Nord Kivu déplore la prolifération des maisons de tolérance au poste frontalier des Kassin di Lubiria, situé à 90 km de la ville de Beni. Selon Kinos Katuho, le premier vice-président de la société civile, ces maisons communément appelées Kijé servent de repères pour les bandits. Cet acteur de la société civile recommande aux autorités de fermer ces établissements et d'identifier les jeunes complices du banditisme qui sévit dans la région. Kinos Katuo le dit au téléphone d'André Kitenge.
La société civile du Sunaeo du groupement de Basongora remercie toute la population pour la collaboration car une petite accalmie est en train de s'observer contre les menaces des bandits à main armée qui menacent plusieurs domiciles. Pour ce, nous sollicitons l'union de tous les outils de sécurité qui sont basés ici à Kassindi. L'identification de toute la jeunesse par les chefs de quartier car cette jeunesse est complice de ces banditisme. La traque de toutes les maisons de tolérance avec leurs complices. Néanmoins, après nos enquêtes, nous avons constaté que ces mêmes maisons de tolérance paient 10 dollars chaque fin du mois, dont nous exigeons des enquêtes sérieuses afin de transmettre ces agents percepteurs à la justice. À la population civile de garder votre sang-froid en faisant des alertes précoces afin que nous puissions respirer une paix durable dans notre groupement de Basongora.
Actualité internationale.
Les forces navales égyptiennes ont secouru 5 personnes mardi et récupéré 4 corps un jour après les naufrages d'un yacht de tourisme transportant 44 passagers dans la ville côtière de Marsa Alam sur la mer Rouge, selon des responsables, après avoir affronté des conditions météorologiques difficiles. Le nombre de survivants s'élève désormais à 33, tandis que 7 personnes sont toujours portées disparues.
L'invité.
Débat autour de la révision ou du changement de la Constitution, José Ifoku, candidate malheureuse à la présidentielle 2023, plaide pour la création d'un Conseil national de médiation pour renforcer la cohésion nationale. Dans une interview ce mardi à Radio Kapi, la candidate malheureuse à la présidentielle de 2018 et 2023 estime que la RDC a besoin d'une vraie renaissance afin d'espérer son développement. Pour elle, le pays n'a pas de problème de texte, mais souffre d'une crise de leadership et des gouvernances héritées depuis plus de 60 ans d'indépendance. Marie-Josée Ifoku est l'invitée de Radio Kapi.
Madame José Ifoku, bonjour.
Bonjour.
Quelle perception avez-vous du débat autour de la révision ou du changement de la Constitution?
En fait, pour nous, ce débat est révélateur de l'environnement politique congolais. Alors, quand vous regardez l'histoire politique de notre Congo, nous allons voir que c'est entouré des tensions, voire même tribales, des transitions, des débats politiques qui ne regardent que les politiciens eux-mêmes, en fin de compte. Mais rien n'est tourné vers le peuple ou un développement réel. Nous comprenons qu'à un moment donné, ceux qui sont au pouvoir veulent réviser pour des raisons qui sont leurs, et ceux qui sont hors du pouvoir craignent que derrière cette révision-là, que ceux qui sont au pouvoir veulent demeurer plus longtemps que prévu.
Et au regard de la manière dont le pays est géré depuis 1960, à votre avis, le problème en RDC est-il un problème d'hommes ou des textes?
Bon, définitivement, c'est un problème d'hommes. Parce que les textes, nous en avons. Hein, si vous regardez même la Constitution telle qu'elle est là, même les lois qui existent dans notre pays, les hommes ne respectent pas ces lois-là. Donc c'est un état d'esprit depuis que nous sommes libres. Donc le réel problème, c'est l'homme. L'homme avec un grand H, qui n'a pas appris à respecter les textes, qui n'a peut-être pas compris c'est quoi la constitution d'un État. Mais malheureusement, vous verrez que les hommes sont plus forts que les textes.
Et pensez-vous aujourd'hui que les mêmes acteurs, la même classe politique sera en mesure d'apporter des réponses efficaces à travers un Conseil national de médiation que vous proposez?
Il faudrait que je vous explique pourquoi je propose ce Conseil national de médiation. Vous savez que depuis que nous avons l'indépendance, les politiciens congolais ont toujours recherché des dialogues et nous allons de dialogue en dialogue. Et pour moi, c'est un modèle qui vient de la naissance de l'État indépendant du Congo depuis le 1er juillet 1985. Pour moi, c'est un état d'esprit où c'est le partage du pouvoir. Donc, chaque fois que nous allons de dialogue en dialogue, donc je vous appuie sur ce que vous venez de poser comme question, c'est fait pour l'intérêt des politiciens. Ça n'a jamais été pour un programme réel de développement. Okay? Alors, nous, la proposition que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi une forme de dialogue. Mais ce n'est pas un dialogue où tous les politiciens viennent s'asseoir encore, on suspend la gestion de la chose publique. Non. On a trouvé une brèche. En réalisant la Constitution, les débats qu'il y avait autour, je suis tombé sur cet article-là, 222, où j'ai dit, mais à l'alinéa 3, il y a une brèche qui nous permet de créer une institution d'appui à la démocratie. Parce que la démocratie en réalité dans ce pays, nous ne la connaissons pas vraiment. La démocratie est venue de la tête. Et donc, il n'y a jamais eu une réelle démocratie. Donc, il y a un semblant de démocratie dans notre pays. C'est ainsi que nous, on se dit, on ne peut pas aller à une révolte, ça ne nous avantagerait pas, le pays est déjà faible, il est en guerre. On ne peut pas non plus aller à un coup d'État. Moi, je ne crois pas au coup d'État, parce que je pense que quand un militaire prend le pouvoir, je ne suis pas convaincu qu'il y aura un changement réel. Donc, c'est ainsi que nous, on a dit, faisons les choses dans un cadre légal qui va nous permettre de réfléchir, de faire entrer tout le monde, pas que les politiciens, pour pouvoir débattre des choses importantes de notre pays. Nous ne pouvons pas nous limiter qu'à la politique politicienne. Parce que ça ne nous permet pas d'avancer depuis 1960.
Est-ce que vous n'êtes pas là en train d'ouvrir une brèche à la classe politique pour trouver l'occasion, une fois de plus, à travers ce Conseil national, de se partager les fonds de la République par des dialogues, des concertations, en lieu et place d'affecter, par exemple, les fonds de la République à des besoins urgents? Aujourd'hui, il n'y a presque plus de routes à Kinshasa.
On en parle peu, hein. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a peu de routes. Depuis, hein, ça, c'est les routes que les Belges nous ont laissées. De fois, j'ai honte de le dire, que le pays était mieux géré sous la colonie. Bien sûr qu'il n'était pas géré pour les intérêts du peuple congolais. C'est honteux de le dire, mais ça reste vrai. Et donc, vous voyez, même si on sort l'argent pour faire des routes, nous suivons régulièrement les détournements qu'il y a. Donc, la solution pour moi n'est pas nécessairement d'aller directement à faire les routes. Ça serait la meilleure des solutions, mais nous voyons très bien que ça ne semble pas possible. Donc, nous voulons inviter ceux qui sont de bonne foi, ceux qui veulent un Congo dont ils rêvent. Mais ils ne peuvent pas continuer à garder ça dans leur tête. Le but de notre combat, ce n'est pas le changement de la Constitution. Parce que changer la Constitution pour la changer, moi, j'ai dit toujours qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Alors, il faut que le leader soit renouvelé, soit changé. Alors là, nous pourrons changer la politique parce qu'elle va appliquer ces lois-là que nous aurons changées. Et donc, du coup, on vivra réellement une renaissance. Quoi.
Madame José Ifoku, je vous remercie.
Merci à vous aussi.
Merci.
C'est par ici que nous bouclons cette édition d'information, mise en onde par Billy Landry Betou, Pelé Kipela Mondola, préparée pour vous. Patience Ngalula Mbombo, c'est moi. Merci de l'avoir écoutée.